Le texte que nous allons commenter se trouve dans l'Évangile de saint Marc, au chapitre 9, versets 38 à 48. En voici la lecture. Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Alors, la fin de cet évangile, oui, pose question. C'est le type de choses, d'ailleurs, qui rebute les gens quand ils lisent la Bible. Et comme vous le voyez, l'évangile lui-même n'est pas exempt de ce type de paroles qui nous rebutent. Mais nous y reviendrons plus tard. Si nous prenons le texte, disons, une interprétation d'abord littérale, notamment le début, si vous voulez, est un appel, je dirais, à l'œcuménisme. Il n'y a rien de plus désolant, de plus contre-productif pour l'évangélisation, pour épauler le travail de la grâce de Dieu dans le cœur de ce monde, que la division des chrétiens. Alors certes, il y a des divisions, l'Eucharistie, la Vierge Marie, il y a des choses, on ne peut pas tout effacer, mais tout de même, je vais vous parler de mon expérience personnelle, je fréquente encore des protestants, je me sens très bien avec eux, et pourtant je suis convaincu que la foi catholique est la plus pure dans tout son enseignement, mais je trouve que les protestants d'énorme qualité, et jamais je n'essaierai de les convertir, comme je trouve désolant que certains protestants estiment que des catholiques fervents, attendons-nous, hein, ne sont pas chrétiens. Quelle pitié! Parce que ils ne le savent pas, mais ils font un tort énorme à l'action de Dieu. S'il vous plaît, je pourrais dire s'il nous plaît, si c'était français, arrêtons de nous invectiver, de nous excommunier. Respectons-nous les uns les autres sur les fondamentaux qui sont le Christ, la Trinité, l'incarnation et le travail de la grâce, la nécessité de la charité. Ce sont des choses extrêmement importantes et nous devons nous mettre d'accord là-dessus. Alors maintenant, je vais aller un peu plus profond dans le texte avec de nouveau ces regards un peu spirituels. Alors, prenons de nouveau l'interprétation que j'aime le mieux parce que je trouve que c'est la plus utile pour nous. L'interprétation donc tropologique ou morale qui va nous tourner vers l'intérieur, l'intérieur des cœurs. Vous voyez, Jean a tendance à exclure, si vous voulez. Hein, ce Jean qu'on estime tellement doux, il avait, n'oublions pas, Jésus l'avait appelé fils du tonnerre, donc il avait quand même heureusement certains défauts, je dis heureusement parce que ça nous console, personne n'est parfait, si ce n'est Dieu. Alors, vous voyez, il dit, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits, mais ce n'était pas en notre nom, alors il voulait l'arrêter. Eh bien, nous voyons des germes, regardons bien chez les gens, que nous estimons perdus, que nous avons tendance à regarder de haut parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Rappelez-vous la parabole du publicain et du pharisien, hein, le pharisien qui dit dans sa prière, je te remercie parce que je ne suis pas comme ce publicain, blablabla, et publicain qui n'osait même pas regarder Dieu. Il se sentait pécheur. Jésus a dit que c'était le publicain qui était justifié. Donc n'ayons pas l'attitude pharisienne qui consiste à dire nous sommes chrétiens, nous sommes meilleurs, les pauvres, les pauvres, les pauvres, ce qui leur arrive, c'est bien fait pour eux, etc. Ça, c'est l'attitude de Jean. On est en train de juger les personnes, etc., parce qu'ils ne sont pas comme nous. Mais Jésus nous invite à un regard plus profond. Et oui, et ce regard, Jean l'a quelque part. Mais il a refoulé. En tout homme, il y a, comment dire, Jésus qui chasse les esprits et qui travaille déjà. Certes, Jésus, sans l'appui de notre prière, est étouffé, un peu comme la parabole du semeur, est étouffé par les ronces dans le cœur des gens. C'est comme ça parce que Jésus veut que l'homme soit sauvé dans toute sa liberté. Donc s'il n'est pas assez lucide pour prier lui-même, il faut que d'autres hommes fassent don de leur liberté par l'intercession, si vous préférez. C'est tout le sens de l'incarnation. C'est tout le sens de l'amour qui ne peut pas sauver sans la liberté consentie. C'est pour ça que notre rôle de chrétien d'abord est d'intercéder. Il y a donc en tout homme, nous dit Jésus, et c'est pour ça que nous pouvons intercéder en toute liberté. Nous ne violerons pas la liberté des personnes, parce qu'en tout homme, il y a cette soif de Jésus, qui fait déjà des miracles, mais qui a besoin, plutôt que notre intolérance, notre jugement, qui a besoin de notre pardon, notre patience et de notre charité, et de notre intercession. Et Jésus dit, ne l'empêchez pas, hein, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Il y a en chacun de nous, il y a au cœur de ce monde, cette présence qui fait des miracles et qui ne peut pas parler mal de Jésus en profondeur, même si des gens sont athées, crachent sur le Christ. Eh bien, je serais curieux de savoir, ils ont sûrement beaucoup de périodes de vide, où ce vide justement, eh bien, c'est déjà le travail de Jésus. C'est déjà ce travail qui montre qu'on ne peut pas parler de Jésus mal sans en subir les conséquences. Et c'est ça justement tout le miracle. Et donc, au lieu de voir ce qui fait obstacle en ce monde, obstacle en nos cœurs, comme des obstacles insurmontables, Jésus nous dit, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. D'ailleurs, c'est aussi un appel à nous-mêmes. Souvent, nous sommes déprimés parce qu'on n'a pas l'impression qu'on fait des progrès dans la vie spirituelle ou parce qu'on est plein de péchés, parce que ceci, cela. Mais Jésus nous dit, je suis en vous, je travaille. Ne brusquez pas la grâce, ne tapez pas du pied, n'agissez pas avec précipitation, continuez à prier. Autrement, comme Jean, nous allons tuer le miracle et nous allons l'empêcher de travailler. Jésus nous dit, celui qui n'est pas contre nous, et pour nous. Soyons conscients de l'action de Jésus qui n'est pas contre nous, mais pour nous. C'est-à-dire que ce qui semble tarder n'est pas du tout contre nous, mais c'est parce que c'est prélude d'un travail en profondeur dans ce monde, dans le cœur de nos frères et en nous. Et voici Jésus qui continue. Et il dit, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, ne restera pas sans récompense. Bon, littéralement, ça montre la supériorité. Ça, c'est l'interprétation allégorique de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. Parce que les prophètes, etc., avaient droit à une récompense de prophète. Je crois que c'est, oui, c'est Jésus qui le dit dans un autre évangile. Mais le disciple du Christ, un simple verre d'eau, c'est déjà énorme de lui donner un simple verre d'eau, il sera déjà récompensé. Ça prouve que nous, chrétiens, nous avons un message. Même si les gens, a priori, sont indifférents, eh bien, nous avons un message qui est très précieux, dont les gens ont soif. Ils en voudraient même ne serait-ce qu'un verre, même s'ils n'en sont pas conscients. Avons-nous, nous, conscience de notre richesse en tant que chrétiens? Cette richesse que nous sommes appelés à partager en évangélisant, parfois par le silence de notre charité, qui doit se faire bruyante, mais je veux dire par là, ce sont nos actes qui vont parler et non pas nos paroles, et notre intercession, notre prière. De même, dans nos vies, eh bien, il faut se contenter des fois des miettes, comme la cananéenne, qui voulait être exaucée tout de suite, et Jésus lui a fait comprendre qu'il faut accepter d'être exaucé à la manière du Christ, avec le temps, de la manière dont il le voudra. Acceptons le verre d'eau que le Christ nous tend, et ne voulons pas tout de suite la cruche, remplie de vin, de bon vin. C'est ça le secret pour arriver à vraiment vivre en Christ, à vraiment nous laisser transformer et à faire que nos frères et que ce monde se transforme. Et voilà aussi Jésus qui nous dit, si on donne un verre d'eau, on ne perdra pas sa récompense. Mais le verre d'eau, c'est de nouveau cette image. Il y a en tout homme, il y a au pire de notre déchéance aussi à nous, ce verre d'eau de la grâce, cette eau du baptême. Et même les gens qui ne sont pas baptisés, que nous les baptisions par les larmes de notre intercession. Il y a en tout homme ce verre d'eau qui symbolise ici l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ. Il y a en tout homme ce verre d'eau. Eh bien, il nous le donne. Tout homme nous tend ce verre d'eau. Nous-mêmes, malgré nos défauts, quand nous prions, c'est comme si nous tendions ce verre d'eau au Christ. Ce monde, eh bien, a ce verre d'eau qu'il tend au Christ. Eh bien, ne restera pas sans récompense. Ça doit être pour nous un appel à redoubler de ferveur dans notre charité, dans notre intercession, parce que tout homme a ce verre d'eau, et Jésus le promet, comme tout homme a cette présence en lui de l'Esprit, tout homme a cette soif inscrite en lui de Dieu, eh bien, il ne perdra pas sa récompense. Mais c'est nous, justement, qui sommes chargés de lui donner sa récompense, par notre intercession, qui va épauler le travail de la grâce, par notre charité, qui va épauler notre travail d'intercession, par notre pardon, notre miséricorde, par notre simple présence en ce monde. Il faut vraiment en être conscient. Nous avons cette responsabilité. Si nous ne le faisons pas, eh bien, malgré les verres d'eau, les gens perdront leur récompense. Jésus continue. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Alors, littéralement, déjà, voyons l'importance qu'il y a d'être chrétien. Il y a des gens qui veulent détourner de la foi, je pense à ma fille notamment, qui, dans une école pourtant dite chrétienne, a des copines qui veulent absolument la persuader que Dieu n'existe pas. Eh bien, soyons lucides, c'est une attitude extrêmement grave, qui nécessite de notre part beaucoup de prières pour ces personnes qui veulent détourner d'autres personnes de la foi, et des prières aussi pour ces personnes qui entendent ces mauvaises paroles, qui pourraient les détourner de la foi. C'est aussi un appel, parce que vous savez, vous avez des choses comme le Da Vinci Code, beaucoup d'hérésies aussi, des sectes pseudo-chrétiennes, d'autres religions. Eh bien, ce n'est pas indifférent, parce que toutes ces choses visent à séparer l'homme du Christ. Donc il faut les combattre par notre prière, par notre charité, par notre valeur d'exemple, et quand l'occasion s'en présente, par une annonce explicite, par une dénonciation explicite de ce qui va contre le Christ, dans les autres religions, dans telle ou telle philosophie, etc. Je dis quand l'occasion se présente, parce qu'il ne faut pas non plus être agressif et cassant. Mais il faut être conscient de ça, toutes les religions ne se valent pas. Tous les chemins ne vont pas à Rome, comme on dit, ne vont pas vers Dieu. Le Christ a dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin ». Donc, Jésus ici nous fait un appel à la vigilance. Ce n'est pas parce que tout homme a soif de Dieu au fond de lui-même, que ce monde est plus ouvert à Dieu qu'on ne le croit, que finalement il n'y a rien à faire. Jésus ici nous le rappelle. Vous voyez, ce texte est bien balancé. Il nous dit « N'ayez pas peur, ne perdez pas courage, il y a plus d'espoir que vous ne le pensez. » Mais là, il nous le dit « Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'espoir que vous ne pensez que tout va se faire tout seul. » Parce que notre rôle à nous, c'est par notre témoignage, en parole si nécessaire, si l'occasion se présente, en prière et en acte, c'est comme si nous étions là pour empêcher justement les forces du mal de faire chuter les petits, de faire chuter cette soif qu'il y a en Dieu, cette petite lumière qui se tourne vers Dieu dans le cœur de nos frères. Parce que vous savez, je l'ai dit, si jamais ce petit verre d'eau, cette petite lumière qu'il y a, cette petite puissance miraculeuse qu'il y a dans le cœur des gens, n'est pas arrosée par notre prière, par notre charité, eh bien nous tuons ces germes de Dieu qu'il y a dans le cœur de nos frères. Donc nous sommes responsables, si nous ne prions pas pour nos frères, si nous n'avons pas ce regard de lucidité en voyant qu'il y a des obstacles, que les gens ne sont pas chrétiens sans le savoir, qu'il faut que les gens deviennent chrétiens explicitement en donnant leur vie au Christ, avec toutes les conséquences que cela va entraîner dans la vie. Tant que les gens n'ont pas franchi ce pas, notre rôle, c'est d'être vigilant dans la prière, l'intercession, notre témoignage de charité, de patience, de pardon, à valeur d'exemple, et, quand l'occasion s'y présente, ne pas se défiler pour témoigner aussi explicitement en parole. Autrement, nous sommes comme ceux qui entraînent la chute d'un seul de ces petits. Vous voyez, c'est très grave, parce que nous avons une énorme responsabilité. Et vis-à-vis de ce monde aussi. En tant que chrétien, en tant qu'Église, nous devons être présents. Pensons aussi à notre Église, qui doit être de plus en plus lucide face aux problèmes de ce monde et face à son rôle et à sa puissance que lui a donné le Christ. Le Christ nous a donné à tous et à son Église de lier et de délier. Si je paraphrase, d'ouvrir et fermer les portes de la grâce. Et pour nos vies, c'est pareil. Quand on ne prie plus, quand on ne prie plus pour quelque chose parce qu'on est découragé, et quand on se tourne vers d'autres solutions, etc. Je n'ai rien contre les psychologues, mais parfois on devrait prier un peu plus, plutôt que de se tourner tout de suite vers le docteur, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, bien sûr. Mais notre premier réflexe est de prier. Et peut-être que dans la prière, Jésus nous dira d'aller voir telle ou telle personne, évidemment. Mais c'est d'abord de prier. Parce que si nous ne faisons pas ça, eh bien, ce germe de Dieu qu'il y a en nous, c'est ce potentiel de miracle dont dit Jésus, hein, faire des miracles en son nom, qu'il y a en nous qui pourrait nous guérir, nous le tuons. Nous avons cette responsabilité de prier, de nous exposer à la parole de Dieu régulièrement pour laisser sa grâce nous toucher, nous transformer. Autrement, c'est comme si nous laissions chuter en nous cette présence de Dieu. Alors Jésus continue et nous donne finalement le moyen d'arriver à sauver tous ces gens et à nous sauver nous-mêmes par cette prière, etc. Il nous dit, et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la, il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne. Après, il fait le pied, les yeux. Notons que ce sont des parties du corps, ce sont des parties visibles. Alors d'abord, Jésus a un langage très excessif, évidemment. C'est là où on voit les limites d'une interprétation toute littérale de la Bible, parce qu'on ne va quand même pas s'arracher les yeux et se couper les mains, etc. Mais c'est le langage de Jésus, parce que d'où il est utile finalement de connaître un petit peu la mentalité de la culture de Jésus. Jésus est un prédicateur qui n'écrit pas et qui n'a que l'oral pour se faire comprendre, donc il faut qu'il utilise des images choc, d'accord? Et c'était beaucoup de gens de son époque, il n'est pas le seul à utiliser des images aussi tranchées. Donc Jésus, finalement, est un prédicateur bien incarné dans la Palestine d'il y a 2000 ans, et il prêche à l'image de tout prédicateur avec des images, des choses qui vont frapper les esprits. Alors, ce sont des moyens que Jésus utilise, et par malheur, et dans l'Ancien Testament il y en a plein aussi, nous nous arrêtons sur les moyens au lieu d'aller au fond du message. C'est pour ça que tellement de gens s'arrêtent à la lecture de la Bible et ne vont pas plus loin. C'est pour ça qu'il est nécessaire que vous soyez conscient et que vous formiez, il y a des pages sur mon site, hein, l'interprétation de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église, il y a aussi d'autres livres, d'autres sites évidemment. C'est très important, formez-vous, mais il n'y a pas besoin d'une grande formation, il faut être conscient que Jésus est un prédicateur oral, qu'il utilise à l'image de tous les gens de son époque, de tous les rabbins de son époque, des images qui sont censées frapper les esprits. Nous le faisons aussi parfois nous-mêmes, hein. Il n'y a pas besoin de vivre à 2000 ans en Palestine. Simplement, Jésus, c'est un peu plus virulent. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Eh bien, mains, yeux, jambes sont des choses du monde visible. Et nous avons tendance à nous attacher à ce monde visible pour solutionner les problèmes. Et Jésus nous dit, non, non. Il faut que tu acceptes de te faire violence, de t'amputer de ce regard du monde visible, des solutions qui paraissent trop axées sur tes forces, pour te tourner vers le monde invisible. Parce que c'est là qu'est la vraie mort et la vraie vie. La géhenne ici, alors la géhenne, c'est l'enfer. C'est d'abord, dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, c'est là où les rois complètement idolâtres de Juda avaient sacrifié des enfants. En se détournant de Dieu, ils avaient pris les cultes païens. Et puis après, quand il y a eu une réforme de roi un peu plus, disons, j'allais dire chrétien, pas à l'époque, mais disons, plus axé vers Dieu, ils en ont fait une déchetterie, si vous voulez, un dépotoir. Donc par image, on comprend que c'est devenu un symbole de l'enfer. Eh bien, je remarque que Jésus dit que c'est là où le feu ne s'éteint pas, puis il parle des vers qui rongent. Eh bien, c'est ça l'enfer. C'est ce refus définitif de Dieu qui va nous ronger et nous miner. Vous savez, quand on a une rancune, on fait l'expérience de l'enfer, on se laisse ronger et miner de l'intérieur. Donc l'enfer, c'est le respect ultime de notre liberté. Il y a des gens qui, paradoxalement, sont tellement enfermés dans l'égoïsme et qui n'ont pas eu assez d'intercesseurs, eh bien, qui vont préférer avoir leur petite vie égoïste et matérielle. Seulement, une fois que les choses sont dans l'invisible, définitive, après la mort, eh bien, il n'y a pas cette petite présence de Dieu dans les cœurs des gens qui limite les dégâts ou dans le cœur de ce monde. Tout est livré pleinement à la liberté pleine et entière. Eh bien, l'amour n'est plus là, avec ce refus définitif. Alors, tout ce qui était atténué par cette présence de personnes qui intercédaient, de cette petite grâce qui travaille dans le cœur pour faire des miracles, de ce petit verre d'eau a disparu. C'est pour ça que l'enfer sera vraiment bien pire que les enfers que nous pouvons des fois nous fabriquer en refusant Dieu. Maintenant, si je reviens à l'interprétation plus tropologique, donc plus quotidienne, eh bien, Jésus nous dit, regardez vers l'invisible, au lieu de regarder vers le visible. Cela demande parfois les sacrifices. Plutôt que d'agir tout de suite, sois patient. Plutôt que de laisser aller ta colère, pardonne. Ce sont des choses qui nous amputent, où nous devons nous faire violence, mais Jésus nous dit, il vaut mieux ça. Parce que si on se laisse aller à nos propres instincts, si l'on se laisse aller aussi à ne compter que sur nos propres forces, eh bien les résultats à long terme seront bien plus catastrophiques. Voilà le message en profondeur de ce passage. Alors maintenant, si vous voulez, je vous propose une petite prière. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence, où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix, et enfin je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Seigneur, nous te prions pour l'unité des chrétiens d'abord. Oui, travaille dans les cœurs de nos églises afin que un ferment de réconciliation grandisse. Seigneur, nous te demandons aussi de travailler en nos cœurs, de nous rappeler cette espérance qu'il y a dans nos propres vies, dans celle de nos frères et celle de ce monde, un verre d'eau. Une petite puissance de miracle, toi-même, qui est déjà là. Que ceci nous encourage à plus de prières et de charité. Oui, ceci, Seigneur, que ça nous encourage, que ça encourage ton Église à miser plus sur la prière et la charité, des moyens qui, à court terme, paraissent bien limités, plutôt que de tout de suite se laisser aller à des moyens plus radicaux, mais où l'amour et ta grâce sont absents. Oui, Seigneur, fais de nous des vrais disciples, tournés vers l'invisible de ta grâce agissante. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.